Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de découvrir ou de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Confucius. Aujourd'hui, deuxième temps, de l'importance des rites. Rémi Mathieu, comment dit-on rite en chinois?
Li.
Le ton est important là.
Oui, le ton est tout à fait important, oui. Parce que si vous prononcez li, c'est le profit.
Ce qui n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, non. Donc il importe de prononcer correctement li.
Bienvenue sur les nouveaux chemins de la philosophie. Le chemin de la philosophie vous accompagne tous les jours de 10h à 10h53 en direct et toutes les nuits en téléchargement. Chaque semaine, on vous invite à déambuler autour d'un thème à la croisée des disciplines, philosophie, littérature, cinéma, musique. Et chaque jour, nous donnons la parole aux amoureux du savoir, aux gourmands de la pensée, aux férus de transmission, la crème de la crème à votre service et au creux de votre oreille. Une gourmandise qui se termine avec une note sucrée à 10h50, heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour une incitation à lire un texte sur Nietzsche, écrit par Michel Houellebecq. Si le souverain le chargeait d'accompagner un invité, il changeait soudain de contenance et pressait le pas. Il saluait, les mains jointes, à droite et à gauche, ceux qui étaient de fonction. Ses vêtements, devant comme derrière, n'avaient pas un pli. S'il avançait rapidement, il le faisait avec dignité et aisance. Quand l'invité s'était retiré, il rendait toujours compte de sa charge en disant « L'invité ne se retournera plus ». Bonjour Rémi Mathieu.
Bonjour.
Je ne suis pas souveraine et vous êtes l'invité.
Merci.
De cette émission. Et donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. C'est à vous que l'on doit, avec Charles Leblanc, l'édition en Pléiade des philosophes confucianistes, à distinguer des écrits de Confucius lui-même. Évidemment, comme souvent, il y a le philosophe, l'écrivain, l'auteur lui-même et ses disciples. Dans le cas de Confucius, c'est particulièrement important. Et vous venez aujourd'hui nous parler de l'importance des rites chez Confucius. Je viens de lire un extrait des Entretiens où l'on décrit un rite accompli à chaque fois que le souverain, est-ce Confucius, est-ce le maître, qui sait, accueille un invité, il se doit de respecter certaines habitudes. Est-ce qu'un rite est une manière d'appliquer des habitudes? Est-ce une coutume? Ou comment est-ce qu'on définit le rite par rapport à ses habitudes?
D'abord, on ne le définit pas. Du moins dans la philosophie chinoise. C'est une habitude qui peut nous déconcerter, mais les Chinois ne définissent pas les notions qu'ils utilisent en philosophie. Ils les illustrent par des exemples, par des situations concrètes. Et ils modifient également les réponses aux questions qu'on leur pose sur telle ou telle notion, telle ou telle concept, en fonction du moment, de la situation, et en fonction de l'interlocuteur. Je prends un exemple. Une notion qui est tout à fait centrale dans la pensée de Confucius et de ses disciples est celle d'humanité. Pratiquer l'humanité vis-à-vis des autres hommes et prouver cette vertu est au cœur de la pensée confucienne. Et comme c'est une notion tout à fait neuve, beaucoup de disciples de Confucius lui posent la question. Maître, qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce que c'est que faire preuve d'humanité, agir avec humanité? Cette fois, au cours des entretiens de Confucius, cette question lui est posée. Pas une seule fois, il ne donne la même réponse. C'est-à-dire qu'il adapte sa réponse à l'interlocuteur, à la situation dans laquelle il se trouve. Eh bien, cet exemple peut s'appliquer à toutes les grandes notions de la pensée de Confucius et au-delà de toute école de philosophie chinoise. Donc, pour en finir sur cette... En finir provisoirement.
Commencer,
plutôt. Sur cette notion d'humanité, je vais prendre juste deux réponses du maître. La première fois, il répond à son disciple, « Eh bien, au début, c'est difficile. Mais à la fin, on y arrive quand même. » Sous-entendu, il s'agit là de faire preuve d'humanité vis-à-vis d'autrui. Et il constate que c'est vraiment difficile de faire preuve d'humanité vis-à-vis d'autrui. Et je ne sais pas si ça ne vous fait pas penser à l'observation que Claudel fait dans son journal, où il se rappelle qu'il faut aimer autrui. Et il ajoute « Mais Dieu, que c'est difficile parfois !» Et une seconde réponse de Confucius, qui arrive un peu plus tard, mais avec le même disciple. Même disciple qui n'a pas plus compris que vous et moi ce qu'il entendait par faire preuve d'humanité. Il dit « Mais maître, qu'entendez-vous par faire preuve d'humanité ?» Et Confucius, là, répond quelque chose de parfaitement clair. Il lui dit « Ren, ai ren », c'est-à-dire « faire preuve d'humanité, c'est aimer autrui ». On est là vraiment dans le saint des saints de la position de principe de Confucius vis-à-vis de dans le cadre de la relation à autrui. Parce que s'il y a un point qu'il faut souligner dans la pensée confucianiste, c'est celui-là. Le confucianisme a le souci d'autrui. Et ça, ce qui n'est pas nécessairement le cas des autres écoles de pensée.
Oui, après, prendre en compte son prochain, aimer son prochain comme soi-même, c'est une phrase qu'on trouve notamment dans le christianisme.
Exactement. On trouve à peu près la même phrase dans la Bible et dans les entretiens de Confucius.
Quel est le lien entre cette importance de l'humanité, voire même de l'humanisme, puisque c'est le sous-titre d'un de vos livres que vous avez consacré à Confucius, hein, l'invention de l'humanisme chinois, question qu'on abordera aussi plus précisément demain en compagnie d'Alexis Lavis, et la notion même des rites, puisque quand même, j'y reviens,
oui,
les rites, et vous avez eu raison de commencer en rappelant l'importance de cette dimension morale du confucianisme, parce que les rites ont un lien très très fort avec cette dimension morale et sociale.
Effectivement, le rite est aussi une notion qui tient à cœur non seulement à Confucius, mais à toute son école, à ses disciples, à ses héritiers. Et pourquoi ? Parce que Confucius part du principe qui peut nous paraître idéaliste, et qui, je crois, l'est réellement, à savoir que les relations entre les hommes, les rapports sociaux, sont avant tout gérés et gérables par des marques extérieures de respect. C'est-à-dire pratiquer le rite, c'est, quelle que soit la forme du rite et quel que soit le contexte, qu'il soit religieux, politique, familial, etc., c'est d'une part présenter de soi-même une forme respectueuse de ce qu'on est. Le rite, quand il est pratiqué, incite au respect de la personne qui pratique ce rite. Elle a des gestes qui sont codifiés.
Comme le souverain qui accueille son invité.
En ce sens, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une habitude.
Voilà.
Il s'agit d'une posture, au sens noble du terme, d'un ensemble de gestes, donc d'une gestuelle, convenue, mais convenue par des livres qui sont, dirions-nous, canoniques, c'est-à-dire qui sont des obligations. Et c'est ça ce qui en fait la puissance contraignante. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, bien évidemment, le rite marque le respect que vous éprouvez ou que vous êtes censé éprouver, en tout cas vous montrez que vous l'éprouvez, vis-à-vis de votre interlocuteur ou vis-à-vis du groupe auquel vous vous adressez. Donc cela crée entre l'acteur du rite et le spectateur du rite, qui est également le destinataire de cet ensemble de gestes, de discours, de propos convenus, une relation qui force le respect et qui par là même va maintenir une cohérence dans ce rapport humain qui peut être potentiellement violent, agressif ou au contraire excessivement affectueux, qui ne devrait pas l'être, et par là même encourager l'harmonie, puisque l'harmonie est une notion à laquelle tiennent beaucoup les confucianistes, et Confucius le tout premier, et préserver ainsi un équilibre social, et au-delà de l'équilibre social, un équilibre politique dans les relations entre les différents groupes de puissance qui constituent une société. Donc, ce point est tout à fait important dans la pensée de Confucius, et elle le sera encore plus dans la pensée de l'un de ses successeurs, dont on aura peut-être quelques moments pour dire un mot, qui s'appelait Xunzi. Xunzi n'est peut-être pas le plus connu de ses héritiers, mais c'est en tout cas celui dont l'œuvre est la plus conséquente.
En voici un extrait, interprété par le comédien Jean-Louis Jacopin.
Quelle est l'origine des rites ? Je dirais que, dès leur naissance, les hommes ont des désirs. Lorsque ces désirs ne sont pas satisfaits, ils ne peuvent s'empêcher de chercher à les combler. Mais pour ce faire, ils ne connaissent plus ni mesure ni limite et ne peuvent s'empêcher de se battre pour arriver à leur fin. De ces luttes naissent des troubles et de ces troubles naît le dénuement. Or, les anciens rois détestaient les troubles. C'est la raison pour laquelle ils ont institué les rites et les devoirs, en vue de marquer les différenciations sociales, de procurer des aliments aux désirs des hommes et de combler ainsi leurs quêtes. Ils ont fait en sorte que leurs désirs ne soient jamais dénués des objets convoités et les objets jamais consumés par leurs désirs. Dès lors, ces deux exigences se sont développées dans la mesure où elles se correspondaient. Telle est l'origine des rites.
Ici, la réponse est claire, Rémi Mathieu. Au-delà de l'importance sociale des rites, au-delà où, en amont, il y a un fondement quasi anthropologique, les rites existent car pour venir combler les désirs non satisfaits des hommes.
Exactement. Ça, c'est la thèse de Xunzi, mais cette thèse est en gestation, dirons-nous, dans la pensée de Confucius. C'est-à-dire que les rites ont plusieurs fonctions. Ce serait peut-être un peu long de développer toutes ces fonctions, mais prenons-en quelques-unes. D'abord, c'est la première éducation, je viens de l'évoquer, et c'est ce qui est rappelé dans la citation de Xunzi, à savoir que le rite est la première façon d'éduquer à la civilité. Nous ne sommes pas seuls au monde, nous sommes, et surtout dans la conception chinoise, nous sommes partie d'un groupe. Ce groupe est, par définition, je dirais naturellement, évidemment, c'est l'option chinoise qui dit ça, naturellement, hiérarchisé. C'est-à-dire que la société est constituée d'un certain nombre de niveaux sociaux qu'il faut respecter, et le rite aide évidemment à ce respect. Mais il a d'autres fonctions.
En ce sens, il a une portée extrêmement conservatrice.
Ah, tout à fait, bien sûr. C'est même une des remarques critiques de base qui a été faite au confucianisme, à savoir qu'il se contente de la situation sociopolitique qui existe. Il n'a pas vraiment l'intérêt d'en sortir. Et au contraire, il considère que c'est une excellente chose de maintenir les choses en état.
En ordre, c'est
le mot qui convient. Comme l'a dit tout à l'heure Xunzi, les anciens rois détestaient les troubles. Ça, c'est la hantise des politiques chinois, depuis la Haute Antiquité jusqu'à nos jours. Les troubles, tout ce qui peut amener une disharmonie dans le groupe. Et donc, le deuxième avantage des rites, c'est également qu'ils s'accompagnent d'une éducation morale. Parce que c'est ça, le fond de l'affaire. Ça n'est pas simplement la beauté du geste, si je puis dire. C'est également constaté que cet apprentissage permet d'acquérir une morale. Et donc, c'est induit par là même un comportement éthique et contribue, avec d'autres moyens, comme l'étude de la musique ou comme l'étude des textes classiques, à inculquer des valeurs, et en particulier des valeurs morales, à tout homme honnête, ce que les confucianistes appellent junz, c'est-à-dire l'honnête homme, l'homme de bien. Et enfin, le troisième élément qui me paraît important de souligner, c'est que les rites, par rapport aux émotions, junz parlait du désir, mais il n'y a pas que les désirs, il y a aussi les émotions dans la vie sociale. Eh bien, les émotions vont être canalisées par ces rites. On pense bien sûr au rituel de deuil, de mariage, de naissance, d'accord politique entre deux principautés, etc. Mais également les rituels qui sont beaucoup plus problématiques, en particulier ceux qui peuvent accompagner une bataille, la précéder ou la suivre, et qui sont déterminants pour la suite des relations entre deux puissances politiques et militaires. Et enfin, le dernier versant de ce troisième usage des rites, qui est de susciter l'émotion. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de canaliser l'émotion, pas trop de pleurs ou pas trop de cris de joie, mais de susciter l'émotion au moment où elle doit se manifester. Et donc, se manifestant dans le cadre du rite, elle sera maîtrisée, canalisée, et elle emportera par là même l'ensemble du groupe dans la destination qu'on prévoyait. Exemple, par exemple, les rituels, là encore, de deuil ou de mariage, quel qu'il soit, où la joie d'un groupe ou la tristesse d'un groupe doit s'exprimer d'une façon codifiée. Donc voyez bien les multiples avantages que présente la pratique des rites et combien, pour un œil de philosophe confucianiste, ce respect est tout à fait capital, tout à
Alors,
fait important.
Multiples avantages d'un certain point de vue, on pourrait aussi objecter les nombreux inconvénients que ces rites comportent. Ils ont pour vocation de brider la nature humaine, vous avez dit de canaliser les émotions, parfois de permettre leur expression, mais toujours de manière codifiée. Il y a une sorte de volonté de presque d'extinction de toute forme de spontanéité des émotions, mais aussi du ressenti, pourquoi pas même de la réflexion de l'être humain au sein de la société. Comme
oui.
Une dissolution de la singularité individuelle au sein de la société.
Exactement. C'est évidemment le reproche qui a été fait, en particulier à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, à toute la pensée confucianiste, à savoir cette forme de sclérose qu'elle impose tant aux individus qu'aux groupes sociaux et à la vie politique. Parce qu'une chose que nous connaissons en Occident, même si nous connaissons formal l'histoire de la philosophie chinoise, au moins nous savons une chose, c'est que la Chine n'a jamais inventé la démocratie. Cette pensée lui est totalement inconnue. C'est-à-dire que Confucius a pris la situation politique qu'il connaissait, celle de l'époque qu'on appelle les printemps et les automnes, printemps et automne, c'est-à-dire la période de l'histoire chinoise qui va à peu près du milieu du 8e siècle jusqu'au milieu du 5e siècle. Je rappelle qu'il a vécu de 551 à 479 avant notre ère et qui a été suivi d'une autre période beaucoup plus sanglante qui est la période des royaumes combattants. Et cette période-là a connu un régime que nous appelons par commodité en Occident féodal, qui était constitué d'un ensemble de principautés qui guerroyaient les unes avec les autres, qui se respectaient fort peu, et Confucius a eu l'illusion de croire qu'avec la morale, on arriverait à remettre tout cela en ordre, à rétablir un gouvernement vertueux, des gouvernements vertueux. Or, toute sa vie a été passée à rechercher un prince censément vertueux, qui appliquerait ses principes. Dans cette optique-là, on peut dire qu'il a été tout à fait déçu, qu'il a, en quelque sorte, raté son ambition. Par contre, il n'a pas raté sa postérité, puisque la doctrine confucianiste a été adoptée par l'Empire, l'Empire des Han. L'Empire des Han, je le rappelle, fondé en 206 avant notre ère, qui a duré jusqu'en 220 de notre ère, et qui a apporté les structures essentielles, aussi bien politiques qu'administratives, de l'Empire chinois jusqu'en 1911.
En se basant sur ce qu'on appelle le confucianisme.
Sur ce qu'on appelle le confucianisme, c'est-à-dire la doctrine de Confucius, mais une interprétation particulière de la doctrine de Confucius. Puisqu'à la mort de Confucius, ses disciples se sont divisés, se sont partagés en 8 écoles concurrentes, et bien souvent agressives les unes avec les autres dans leurs principaux écrits, et une seule l'a emporté, au moins face à l'histoire, qui est l'école de Mengzi. Mengzi, qui est connu en Occident sous son nom latin, Mencius, et qui a opté pour une attitude qui nous paraît extrêmement positive, j'allais dire optimiste, à savoir que la thèse centrale de Mencius, c'est que l'homme est foncièrement bon. L'autre thèse qui s'opposait avec violence à cette assertion est celle de son autre grand concurrent, à savoir Xunzi, dont nous avons lu tout à l'heure un passage de l'œuvre à propos des rites. Et Xunzi lui pensait très exactement le contraire, à savoir que l'homme naît mauvais et que tout en lui est mauvais, que ce qui peut le rendre bon, c'est la culture de soi. C'est-à-dire l'étude, les rites, on vient d'en parler, et l'étude des textes classiques, tout ce qui peut améliorer sa nature foncièrement mauvaise. Donc on voit bien les deux positions radicalement opposées.
Dans les deux cas, pardonnez-moi, dans les deux cas, la question qui se pose, c'est celle de la perfectibilité de l'homme, qui est la question que Confucius pose.
Alors au moins, ils sont d'accord sur un point. C'est-à-dire que depuis Confucius, et on peut dire que c'est une des lignes rouges, le fil rouge qui suit la pensée confucianiste depuis les origines jusqu'à nos jours, c'est que l'homme est perfectible. L'homme est perfectible, qu'il soit né bon ou qu'il soit né mauvais. En tout cas, le fond de l'action que le sage doit entamer à la fois sur lui-même et sur autrui, c'est le perfectionnement de soi. Pourquoi se perfectionner ? D'abord parce que nous naissons avec des potentialités, mais que ces potentialités, quelle qu'en soit la qualité, la nature, elles peuvent tendre vers une amélioration. Et par ailleurs, il est possible, grâce à l'aide d'un maître, de progresser à la fois sur le plan intellectuel, sur le plan moral également, sur le plan de la connaissance de soi et des autres, et au-delà, sur le plan de la gestion politique du monde, parce que c'est ça le fond de l'affaire, c'est-à-dire s'améliorer. Pourquoi, si ce n'est pour gouverner ce qu'on appelle le monde sous le ciel, hein. C'est une philosophie politique que le confucianisme.
Alors écoutons Confucius s'adresser au duc du royaume de Lu pour lui conseiller une politique qui repose sur l'élévation morale du peuple qui doit être visée comme la fin d'un bon gouvernement. Écoutez, c'est dans l'adaptation cinématographique que Hu Mei a proposée en 2009.
Lu Jun jia dao.
Kong Qiu, ni lai le.
Oui, Chen Kong Qiu.
Maître Kong Qiu, corrigez-moi si je fais erreur, mais cela fait bien un an que vous gouvernez la ville de Chengdu. On m'a dit que vous y avez accompli de belles choses. Les rues sont plus sûres et le crime éradiqué.
Votre Altesse, je vous l'avais promis, donnez une année à un homme et vous verrez que beaucoup de choses peuvent être accomplies.
J'aimerais tellement que vos idées puissent s'appliquer à tout le royaume.
Mais je ne suis pas habilité. Je suis un simple citoyen.
Plus pour longtemps, maître. Je veillerai à vous confier un poste plus important. La fonction du ministre Jie Ru n'a pas été réattribuée depuis sa mort. Je suis sûr que les trois nobles familles ont déjà pensé à un successeur. Je n'en tiendrai pas compte et je vais vous nommer à ce poste.
Majesté, c'est un grand honneur.
Vous et vos disciples, vous pourrez civiliser le royaume de Lu. Vous saurez faire évoluer les mentalités. Croyez-vous que l'on peut encore renforcer le royaume ? J'ai pensé adopter certaines méthodes du royaume Qi.
Votre Altesse, si les citoyens de Qi respectent tant les lois, c'est parce qu'ils les craignent, Majesté. Que penseriez-vous plutôt de ceci si nous adoptions des lois plus justes que notre peuple aurait approuvées au préalable ? Cela ne serait-il pas plus judicieux ? Faites en sorte que les gens vous aiment et vous n'aurez plus de soucis à vous faire. Plus besoin de craindre des voleurs ou des traîtres. et la paix régnera de nouveau. Aidez votre peuple à respecter leurs anciens et leurs enfants. Dites-leur d'aimer leurs prochains. Les hommes deviendront valeureux et ils vous serviront jusqu'à leur mort. Que femmes et enfants aient tous un toit au-dessus de leur tête. Ainsi le peuple vivra et travaillera dans la joie.
Écoutez les chemins de la philosophie sur France Culture, il est 10h26, c'est le deuxième temps d'une série d'émissions consacrée au philosophe Confucius. Et pour l'occasion, c'est Rémi Mathieu qui vient nous en parler. Rémi Mathieu, à qui l'on doit avec Charles Leblanc l'édition en Pléiade des textes des philosophes confucianistes, ainsi qu'un ouvrage notamment consacré à Confucius aux éditions Entre-là. Rémi Mathieu donc, nous venons d'entendre cet extrait du film de Hu Mei qui, malgré, j'imagine, les nombreux contresens qu'il propose quant à la pensée de Confucius et les diverses interprétations, a le mérite de mettre en scène non seulement Confucius qui propose ses services à un souverain, donc il cherche une application pratique à son enseignement, hein, plus qu'une philosophie, on parle vraiment d'enseignement, mais aussi ici la conception morale qu'il propose. Il part du principe, et vous l'avez dit, les interprétations divergent hein, parmi ses disciples, que l'homme peut être bon et qu'il faut élever le peuple vers une forme de vertu morale et que c'est cela seulement qui sauvera le pays du désordre.
Oui, cet extrait est tout à fait intéressant parce qu'il est réaliste, je trouve. Qu'il soit exact sur le plan scientifique, historique, n'a qu'une importance secondaire. C'est une œuvre d'art, ça n'est pas une thèse universitaire. Mais ce qui est important dans ce passage, dans ce paragraphe, c'est le fait qu'il y a cette affirmation selon laquelle l'amour du prince pour le peuple et l'amour du peuple pour le prince est au cœur de leur relation. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus important que le peuple sente l'amour de son prince plutôt que de savoir si la loi est bien écrite ou pas bien écrite, appliquée ou pas bien appliquée. Et ceci ne manque pas de sel dans la mesure où l'on sait, ou l'on devrait savoir du moins, que Confucius a occupé le poste de ministre de la justice dans cet état de Lu. L'état de Lu est un grand état qui se situait dans la presqu'île du Shandong. La presqu'île du Shandong est cette grande pointe qui s'avance dans la mer de Chine, qui correspond un peu pour nous à la Bretagne, un peu dessinée dans l'autre sens. Donc c'est une principauté importante qui est au cœur de l'histoire du confucianisme. Donc on voit bien tout le poids que peut avoir cette relation faite d'amour, d'affection qu'on pourrait appeler parentale entre le prince et ses sujets. Je reviens un petit peu en arrière à propos de la politique et de l'absence de l'idée de démocratie en Chine. Je ne voudrais pas qu'on ait une image caricaturale à la fois de la société chinoise classique et de la pensée philosophique de la Chine ancienne. À savoir que ça n'est que despotisme, que châtiment, que loi, que rite éventuellement, sur quoi se plaquerait de façon artificielle une éducation morale sclérosée. Non, il y a à la fois chez Confucius et plus encore chez son successeur le plus illustre, Mencius, dont on a dit un mot tout à l'heure, une idée qui est importante, à savoir que ce qu'il y a de capital dans la gestion politique, c'est le peuple. Mencius dit clairement dans l'un de ses écrits, ce qui compte avant tout, c'est le peuple. Et ce qui est moins important, c'est le prince et c'est l'État. Et ça compte dans la vue qu'on peut avoir de la philosophie confucianiste. Parce que d'autres écoles de pensée chinoise de l'Antiquité ont une perspective tout à fait différente. En particulier les légistes qui ont aidé à la fondation de l'Empire, l'Empire de Qin, qui a donné son nom d'ailleurs à la Chine, voyait au contraire que ce qui est le plus important, c'est l'État. C'est-à-dire qu'on peut lui sacrifier les peuples. Les peuples ne sont là que pour fournir la chair à canon, pour fournir également les agriculteurs qui nourrissent l'ensemble du pays, mais leur avis ne compte pas. Et s'ils ne sont pas d'accord, eh bien on les extermine et l'affaire est réglée. Vous notez d'ailleurs au passage combien cette pensée généreuse a servi à structurer la pensée politique des dirigeants chinois tout au long de l'histoire de Chine. Beaucoup plus, hélas, que le confucianisme tel que Confucius pouvait l'illustrer. Donc cette citation de Mencius a une importance tout à fait considérable dans la mesure où, au moins en théorie, elle a servi de référence à la pensée des souverains. Alors, qu'il l'ait appliquée ou pas, vous savez, c'est un peu comme chez nous le christianisme. Tout le monde était d'accord sur les principes. Son application, comme on peut le constater, a parfois subi quelques distorsions par rapport au message christique.
Tout l'intérêt de parler de Confucius et de Mencius à la radio, c'est aussi de pouvoir donner à entendre leurs textes. Vous avez cité ce texte très important de Mencius. En voici son interprétation.
Mencius dit « Le peuple est ce qu'il y a de plus précieux. Les autels des dieux du sol et des moissons viennent en deuxième et le souverain en dernier. Ceux qui gagnent la confiance du Fils du ciel deviennent des princes feudataires. Ceux qui gagnent la confiance des princes feudataires deviennent des grands dignitaires. Si les princes feudataires mettent en danger les dieux du sol et des moissons, on les remplace. Si les animaux sacrificiels sont gras et forts, les céréales sacrificielles abondantes et pures, les offrandes rituelles célébrées au moment prescrit, et que surviennent néanmoins des sécheresses ou inondations, ce sont les autels aux dieux du sol et des moissons qui sont remplacés. »
Ici, on entend la force de la primauté du rite dans l'application politique, s'agissant de toute forme de structure sociale. Seul le peuple, en fait, surpasse les rites dans cette hiérarchie. Les rites prévalent sur le souverain, sur les princes eux-mêmes. Mais la question qui se pose, Rémi Mathieu, est de savoir dans quelle mesure les rites se distinguent des lois, puisque nous parlons ici de l'application politique des rites. Quelle est cette différence?
Oui, les lois, par définition, n'ont pas de vertu morale. Il y a des textes qui ne sont pas de Confucius, qui sont postérieurs à Confucius, et qui disent les choses assez clairement sur ce point. À savoir qu'il y a d'une part une éducation morale qui est faite par les maîtres et qui est faite également par les officiers de cour auprès du peuple. C'est une vision, à mon sens, un peu idéaliste, mais bon, c'est celle qu'on trouve dans les textes, en tout cas. Et, par ailleurs, il y a les punitions, les châtiments, ce que les textes appellent les lois. Mais en fait, les lois, le caractère qui signifie la loi, s'écrit avec la clé du couteau. Ce qui est déjà tout un programme. Et cette application de la loi, plus ou moins sévère et plus ou moins bien considérée, selon les auteurs confucianistes, n'a pas en soi de vertu éducative. Or, tous les textes, depuis Confucius jusqu'à dernier penseur confucianiste connu, estiment qu'il y a une nécessité à distinguer les deux. L'éducation morale, par les rites, la musique, etc., l'étude, et les lois qui, elles, doivent châtier dans la mesure où l'ordre social est ce qui compte avant tout.
Donc la loi serait coercitive quand les rites auraient une vertu éducative.
Exactement, exactement. C'est pour cela qu'on distingue bien les deux et qu'il est rare de voir des textes qui sont d'accord pour mélanger ces deux moyens de gérer la société. Mais la chose n'est pas si simple dans la mesure où chaque auteur se rattachant à l'école confucianiste et chaque groupe de chaque école a une conception un peu différente. C'est-à-dire que certains considèrent malgré tout que l'application de la loi, si elle est rigoureuse, peut non seulement empêcher les troubles, les désordres dont on parlait tout à l'heure, mais également avoir une vertu éducative. Mais ce point n'est pas partagé, donc je le disais à l'instant, par l'ensemble des penseurs. Toutefois, ce qui me paraît aussi important de souligner, c'est que le prince est avant tout considéré par ces textes confucianistes comme un éducateur. C'est-à-dire, c'est à lui que revient d'éduquer à la fois les hommes de sa cour, les conseillers, les ministres, ce qu'on appelle les hauts dignitaires, et à eux d'éduquer le peuple au sens le plus large du terme. Mais on voit combien cette idée d'éducation est centrale, est importante dans la conception confucianiste de la politique.
Ce qui est une conception très paternaliste aussi de la politique.
Oui, paternaliste.
Le souverain et le père qui éduque ses enfants.
Exactement. Elle n'est pas une conception qu'on retrouvait chez les légistes dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire, il suffit de distribuer les coups de fouet et de couper les têtes. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Il faut d'abord éduquer les gens. Éduquer un peuple, et seulement s'il n'y a pas moyen d'éduquer certains, alors il faut bien en venir au châtiment.
Mais ça veut dire que le souverain est garant des rites également et pas que des lois ?
Exact, il est surtout garant des rites.
Les rites n'émanent pas du peuple, mais du souverain.
Il est garant des rites avant toute chose, parce que les lois peuvent changer, d'ailleurs elles changent évidemment, selon les souverains, selon les époques, selon les nécessités du temps. Mais les rites, eux, doivent être, sinon immuables, du moins se référer à un temps lointain qui n'est jamais strictement défini, mais qui est toujours celui des sages rois du temps passé, à l'époque où régnait, comme chacun s'en doute, une vertu absolue. Et donc, il importe de bien concevoir que, dans la pensée confucianiste, le souverain, le prince, a cette vertu d'être... ce que disaient les textes, le père et mère du peuple. Et il y a, faudrait développer évidemment un peu plus que je ne le fais, des parallèles qui sont intéressants à faire entre la fonction du père à l'intérieur de la famille et la fonction du prince. Le père est à la fois le chef de la famille, bien sûr, au plan sociopolitique, mais également au plan religieux, puisque c'est lui le maître du culte des ancêtres. Et le prince, parallèlement, est maître du culte religieux de sa principauté et également maître à mains égards de sa population, soit pour ce qui concerne le calendrier agricole, les activités militaires, les rites religieux, le rapport au ciel et à la terre dans le cadre des pratiques cultuelles. Donc ce parallèle entre le père qui gère par son autorité sa famille, famille élargie bien entendu, et le prince qui est le père et mère du peuple, est constamment réaffirmé.
Et pourtant, le texte de Mansus semblait affirmer la supériorité des rites sur le souverain. C'est-à-dire oui, le souverain d'un côté, le père, la mère, c'est lui qui décide, on l'a dit, des rites, et en même temps, il est soumis.
Bien sûr,
qui le dépasse.
Bien sûr, il est soumis. Mais il est mortel. Il est mortel.
Voilà, à la différence
contrairement,
des rites.
Contrairement aux rites qui sont supposés être éternels, du moins être gravés dans le marbre pour de longs siècles, lui est mortel. Et il est d'ailleurs susceptible d'être renversé, d'être assassiné. L'histoire chinoise, en tout cas l'histoire de la Chine ancienne, et même de la Chine classique, est pleine de ces renversements, bouleversements politiques qui se traduisent par des explosions de violence qui frappent bien évidemment le prince. Mais vous avez raison de rappeler que le prince lui-même est soumis aux rites qui sont supposés ne pas être immobiles quasiment, en tout cas par rapport à l'histoire de la Chine.
Si le modèle familial est transposé au modèle politique, et que le souverain est lui-même appelé père et mère, il ne faut pas sous-estimer en retour l'influence des rites politiques au sein de la sphère familiale. Et je vous propose pour illustrer cela d'écouter un extrait d'Épouses et concubines, le film Zhang Yimou, qui date de
1991.
Qui est là?
C'est moi, Chen. C'est l'heure du déjeuner. Les légumes de la quatrième épouse sont à sa disposition.
Ah.
La première, la deuxième, la troisième épouse vous attendent.
Elles peuvent attendre. Je n'irai pas, je veux qu'on me serve ici.
Ce n'est pas très convenable.
J'ai décidé de déjeuner ici.
Comme tu voudras. Chen, arrange-toi pour qu'on nous serve ici.
Le maître insiste auprès de ses épouses pour qu'elles prennent le repas toutes seules. Le maître prendra le sien chez la quatrième épouse.
C'est contraire aux règles de cette maison, c'est très fâcheux.
Grande sœur, je désirerais que nous mettions les choses au clair. Chaque fois qu'on éclairera mes lanternes, tous les repas me seront portés.
Tu es folle. Qu'est-ce que deviendrait la grande sœur? Pense un peu au respect qu'on lui doit.
Moi, je ne compte plus. Je suis rangé avec les antiquités. Mais vous autres, vous finirez par détruire la famille Chen.
Le maître. Guang Zong était un homme de bien peu d'envergure. Un disciple. Mais n'était-il pas célèbre pour sa frugalité? Le maître. Il épousa 3 femmes d'un coup et pas un de ses secrétaires ne cumulait les fonctions. Vous appelez cela de la frugalité? Le disciple. Mais il devait pourtant connaître à fond les règles rituelles. Le maître. Seul un duc peut faire masquer les portes de son palais par un rideau d'arbre. Il en fit planter lui aussi. Seul un duc qui en reçoit un autre dispose d'un porte-coupe de cérémonie. Il avait le sien. Si c'est ainsi que Guan Song connaissait les règles rituelles, qui ne les connaît? C'est au sein de la sphère privée, familiale, qu'on entend la dimension sans doute la plus conservatrice des rites, hein, Rémy Mathieu, que ce soit dans l'extrait d'Épouse et concubine où la quatrième épouse prétend à une place qui n'est pas la sienne. En réalité, c'est cela, hein, qui revendique le droit de se faire servir à déjeuner dans sa chambre, alors que la grande sœur, c'est-à-dire la première épouse, dit bien qu'elle enfreint ainsi les règles établies. Ce qui n'est pas d'ailleurs, c'est pas que ça la vexe, c'est qu'elle dit que c'est la fin de la famille, si elle enfreint son propre rôle. Et dans l'extrait que j'ai lu ensuite des entretiens de Confucius, c'est pareil, c'est l'homme qui se prend lui-même pour un duc et qui agit comme s'il était un duc, et on sent ici le danger imminent à aspirer à une autre position que la sienne. Tout simplement.
Oui, on voit bien que ça n'est pas une question de geste. Hein.
C'est ça.
C'est une question de vie ou de mort. Le texte le dit bien, le texte du film de Zhang Yimou, en tout cas, le dit bien. À savoir que si on ne respecte pas la hiérarchie, qu'elle soit familiale, sociale ou autre, l'édifice s'écroule. Et donc ce respect doit être mis au-dessus de tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce qu'on appelle en sinologie française, le livre des rites, qui est un des 5 classiques, qui préexistait d'ailleurs à Confucius, est considéré comme un texte canonique, c'est-à-dire un texte qui fait référence par rapport à tous les comportements qu'on doit avoir aussi bien dans le cadre familial que dans le cadre social.
Qu'est-ce que c'est ce livre des rites? C'est comme un code civil des rites qui...
Oui,
tout est consigné.
Tout est consigné, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit, comment toute la vie se marque par une série de gestes, de propos, d'habits, couleur des habits, longueur des robes, ampleur du geste, vitesse d'exécution de la marche, et ainsi de suite. Je ne parle pas de la complication des rites funéraires qui, là, dépasse l'entendement. Mais donc, ce que je voulais indiquer et souligner, c'est que ce livre des rites, donc en chinois, Li Ji, donc le Li, vous voyez, on le retrouve, le Li du début de notre entretien, est donc un des 5 livres canoniques que les Chinois connaissaient dès la plus haute antiquité, peut-être pas exactement sous la forme que nous le reconnaissons maintenant, mais en tout cas une forme tout à fait référentielle. Et ça n'est pas un hasard si Confucius, selon l'histoire officielle, est supposé avoir relu et en quelque sorte édité ces textes, les avoir mis en forme, en avoir fait la sélection, nous dirions la censure, pour le livre des poèmes, qui est le premier livre de poésie de l'Antiquité chinoise, le Shijing, le livre de la musique, Yuejing, qui est largement perdu, le livre des rites, Li Ji, et également le livre du changement, Yijing, qui est anciennement un livre divinatoire, auquel s'ajoute le Shujing, c'est-à-dire le livre de l'histoire, l'histoire telle qu'elle existait dans la très haute antiquité. Donc tous ces livres ont été en quelque sorte accaparés par les confucianistes, l'école confucianiste, en affirmant que Confucius les avait relus, édités, mis en forme et ainsi de suite. Donc il était devenu par là même intouchable. Et à partir du moment où l'Empire a été fondé, donc 221 d'abord, mais c'est surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dynastie des Han qui a fait ce choix idéologique. Le confucianisme a été choisi comme doctrine officielle de l'État, de l'Empire. Eh bien, ces livres canoniques, relus censément par Confucius, sont devenus la littérature obligatoire de tous les lettrés et la littérature par laquelle étaient préparés les concours qui servaient à recruter ce que nous appelons en Occident les mandarins, c'est-à-dire ceux qui administraient l'État. Donc on voit bien que toute la société chinoise allait être mentalement, idéologiquement, philosophiquement structurée par ces cinq classiques. Et cinq classiques, censément édités donc par Confucius, dans une optique confucianiste qui était donc dominée par la morale du maître, par les notions d'humanité, de bienveillance, etc., de rituel et ainsi de suite, toutes les notions cardinales de la pensée confucianiste. Donc on voit bien combien tous ces textes sont véritablement à la base de l'administration politique de l'Empire chinois jusqu'à nos jours.
On va finir de manière subversive en défiant les rites grâce à Tricomachine.
On est parti en sauvage, sans faire le ménage, je nous reconnais pas. On est sorti par derrière, on a fermé les lumières, libéré le chat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites, remis l'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite.
Merci à vous Rémi Mathieu d'être venu nous parler de Confucius aujourd'hui.
C'était un plaisir.
On va remettre l'ordre à sa place, comme le chante Tricomachine. De vous, on peut lire plusieurs ouvrages consacrés à Confucius et pas seulement. Vous avez aussi contribué à l'édition en Pléiade des philosophes taoïstes dans le second volume, qui est en fait le premier volume, enfin... Peu importe les précisions, un deuxième volume est à paraître bientôt, n'est-ce pas? Il est en cours de préparation.
Oui.
Vous viendrez en reparler. Les différences entre Confucius et le confucianisme et le taoïsme sont passionnantes. On en parlera jeudi prochain. De vous donc, on peut lire l'ouvrage consacré à Confucius aux éditions Entrelacs. Confucius, l'invention de l'humanisme chinois, toujours aux éditions Entrelacs, collection Sagesses éternelles. Et enfin, le volume de la Pléiade consacré aux philosophes confucianistes.
Sauvage, sans faire le ménage, je nous reconnais pas. On est sorti par derrière, on a fermé les lumières, libéré le chat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas défié les rites. L'ordre à sa place parce que c'est tout ce qu'il mérite.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
L'aventure continue avec vous, on renoue avec le présent, en tout cas une forme d'actualité.
Complètement, alors il y a deux semaines, souvenez-vous, histoire très récente quand même, je vous parlais de Virginia Woolf et de ses essais rassemblés sous le titre « Les livres tiennent tout seuls sur leurs pieds » avec cette question « Qu'est-ce que lire ?» Eh bien aujourd'hui, j'ai trouvé l'occasion de poser une autre question, plus souvent soulevée par les philosophes, « Qu'est-ce qu'écrire ?» Mais cette question, je ne la pose pas grâce à un philosophe, mais grâce à un écrivain, encore une fois, et dans un tout autre genre que Virginia Woolf.
Bon, alors, je me suis trouvé... Et Bukowski, mais moi, je ne te dirai pas ta gueule, mais ça fait rien, laisse-moi un peu parler, quand même.
Nous passons pour des dégueulasses, parce que de temps en temps, quand elle nous emmerde trop... Oh, ok. Ciao.
Ok.
Au revoir. Au revoir. Ok. Bah, finalement, il tient pas tellement la bouteille, ce écrivain américain. Voilà. Vous voulez pas l'emmener, là?
Charles Bukowski, vous l'aurez donc reconnu, en tout cas grâce à ses râles d'homme ivre. C'était dans cette séquence devenue mythique sur le plateau d'Apostrophe avec Bernard Pivot à la fin des années 70, et oui, on ne s'en lasse pas. Et cette séquence n'est pas qu'anecdotique, au contraire, elle fait écho au cadeau que nous font les éditions Au Diable Vauvert, celui de publier une anthologie de textes inédits sur l'écriture, écrits par Bukowski lui-même. Alors ce sont des lettres à des éditeurs, des directeurs de revues, mais aussi à des amis et des confrères écrivains. L'occasion était donc trop belle de se demander, avec cette figure de la contre-culture américaine, alors qu'est-ce qu'écrire? Et la première réponse que nous donne Bukowski, eh bien, c'est l'ivresse. Cet état de trouble causé par la prise de substances, notamment l'alcool, et notamment, en ce qui concerne Bukowski, semble en effet un état nécessaire à sa création. Alors certes, dans ses lettres, l'alcool est présenté comme un empêchement à la création. En 1953, il déclare ainsi qu'il a dû vendre sa machine à écrire pour se saouler. Mais l'ivresse, comme trouble de soi, serait-il en fait le meilleur moyen de s'oublier soi, de s'ouvrir aux autres et d'être perméable au monde?
This whole place is a disease with the presence of everybody but my soul. Now Linda's gonna come back. I'm not gonna be happy when she comes back. Bertin, I say hi. I just don't like people. I only like myself. There's something wrong with me. I don't know what it is, but I'm not going to try to cure it.
Dans cette archive de Bukowski, où là on l'entend quand même plus clairement, il nous dit être atteint d'une autre maladie que l'alcoolisme et qu'il n'a pas envie de guérir. Cette maladie, ce sont les autres. Paradoxalement, avec Bukowski, l'écriture est donc à la fois le trouble de l'ivresse qui le décentre, qui l'oublie lui-même, mais c'est aussi les autres. Mais alors qu'est-ce qu'écrire si c'est à la fois être un autre que soi et en même temps être replié sur soi? Eh bien, ce paradoxe semble être une deuxième réponse à notre question « qu'est-ce qu'écrire ?». Ce paradoxe semble même être l'essence de l'écriture quand on lit les lettres rassemblées ici. Ces lettres incroyables qui sont le témoignage d'une détestation de soi, où toutes les pages écrites, les brouillons, les essais d'écriture, les tentatives de poésie finissent à la poubelle. Mais ces lettres qui sont aussi la preuve d'une haine du monde, où les cigarettes n'ont plus le même goût, où le chili et le café sont du plastique, et où, je cite, « les gens se contentent d'acheter des nouvelles voitures, et c'est tout ».
Je peux écrire de façon plus précise sur moi-même que sur n'importe quelle autre personne de ma connaissance. C'est une grande source d'inspiration. J'ai vécu des années, des jours, des nuits, des moments étranges et sauvages. Certains de ces moments ont été courageux et humoristiques, et d'autres, c'était autre chose. Pas mal de gens m'ont raconté qu'en lisant ce que j'ai traversé comme enfer, ça leur a permis plus facilement de continuer à vivre. J'ai, depuis le jour de ma naissance, constamment adopté la position de l'homme frigorifié.
Alors, comment écrire finalement quand on est un homme frigorifié, et qu'est-ce qu'écrire quand ce n'est plus la peine? Ou encore, il faudrait peut-être retourner la question, quand ce n'est plus la peine, quand on est frigorifié, n'est-ce pas là les conditions de l'écriture? On pourrait parler d'éducation, d'inspiration ou de talent pour écrire, mais on pourrait aussi parler, en guise de troisième réponse, d'enfer, comme on l'a entendu, ou alors de merde. Oui, c'est peut-être l'un des termes les plus récurrents, je dois dire, dans ces lettres, la merde. Et là est peut-être la clé de l'écriture, ce qui pose problème, ce qui dégoûte, mais qui est bien là, sous nos yeux. Et plutôt que de se demander, comme les philosophes, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, pourquoi ne pas se demander avec Bukowski, pourquoi y a-t-il de la merde plutôt que rien, et écrire à partir de ça.
Quelle poésie, Géraldine. Merci.
Oui, c'est lundi matin.
Rappelez-nous le titre du livre, ça a l'air passionnant.
Alors c'est vraiment génial, ça s'appelle Sur l'écriture, donc ça rassemble un ensemble de lettres inédites et c'est aux éditions Au Diable Vauvert.
Comme quoi, de Bukowski à Ulysse ou d'Ulysse à Bukowski, un seul combat qui conduit à écrire, c'est celui d'essayer de rester en vie. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo.
Thank you.
Cette semaine, nous vous offrons quelques minutes de poésie avec Arthur Rimbaud, des textes lus par le poète Jacques Gamblin. Aujourd'hui, Mauvais sang.
L'ennui n'est plus mon amour. Les rages, les débauches, la folie, dont je sais tous les élans et les désastres. Tout mon fardeau est déposé. Appréciant sans vertige l'étendue de mon innocence. Je ne serai plus capable de demander le réconfort d'une bastonnade. Je ne me crois pas embarqué pour une noce avec Jésus-Christ pour beau-père. Je ne suis pas prisonnier de ma raison. J'ai dit Dieu. Je veux la liberté dans le salut. Comment la poursuivre? Les goûts frivoles m'ont quitté. Plus besoin de dévouement ni d'amour divin. Je ne regrette pas le siècle des cœurs sensibles. Chacun a sa raison, mépris et charité. Je retiens ma place au sommet de cette angélique échelle de bon sens. Quant au bonheur établi, domestique ou non, non. Je ne peux pas. Je suis trop dissipé, trop faible. La vie fleurit par le travail. Vieille vérité. Moi, ma vie n'est pas assez pesante. Elle s'envole et flotte loin au-dessus de l'action, ce cher point du monde. Comme je deviens vieille fille, à manquer du courage d'aimer la mort. Si Dieu m'accordait le calme céleste, aérien, la prière, comme les anciens saints, les saints, des forts, les anachorètes, des artistes comme il n'en faut plus. Farce continuelle, mon innocence me ferait pleurer. La vie est la farce amenée par tous.
C'était « Mauvais sang » d'Arthur Rimbaud, lu par Jacques Gamblin. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission, ainsi que toutes les autres, Marianne Chassor, David Pargamin, Maude Markiewicz, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard et Nicolas Berger à la réalisation. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur Confucius. D'ici là, pour réécouter l'émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez la réécouter en ligne, ainsi que toutes celles des jours précédents et des semaines et des mois, voire des années précédentes. Vous pouvez aussi télécharger, podcaster ces émissions afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour et attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.